Bruges. C'est tout.
Festival du Zest à Sort.
Radio Zest, au milieu du triangle des Landes.
Cassant. Cassant.
Vendredi 22 août, 14h, discussion rebond avec Maurice Felvic suite à sa rétrospective.
C'est pas la première fois qu'il vient, indirectement, puisqu'il y a maintenant 3 ans, non plus, 3 ans, oui. Il y a 3 ans, on avait projeté jusqu'au bout. Le film qui était tiré de la lutte des Célatex, si vous vous souvenez. Donc, c'est un film qui avait été primé au festival de Biarritz, FIPA. Et donc, on avait présenté, c'était encore à Villandrau. Et c'était d'ailleurs Jean Bigot, qu'on retrouvera ce soir, qui avait participé au débat. Et Morad Rabi, qui était un dirigeant du syndicat de Célatex de l'époque, qui avait participé à ce débat. Donc, c'est pas. Voilà, il est déjà en terre connue indirectement. Vous avez pu, depuis le début de l'Estéiade, découvrir au moins deux de ses œuvres, Le jardinier récalcitrant. Alors, bon, dans des conditions qui ne sont pas toujours super, le chapiteau, c'est un peu précaire, mais le chapiteau est à l'image de l'Estéiade, quoi. C'est toujours pareil. Le jardinier récalcitrant est passé deux fois et hier on a projeté le gouverneur de la Rosée à la salle des fêtes dans des conditions qui étaient quand même meilleures, mais toujours avec quelques petits aléas, mais bon, globalement c'était bien. Et demain, je vous invite vraiment tous à venir voir L'Écho demain matin, c'est demain matin je crois, la projection, un film avec Serge Reggiani. Donc ce qui serait intéressant dans ce débat rebond, c'est qu'à la fois ceux qui ont vu les films puissent poser des questions, échanger avec Maurice, et puis échanger aussi avec Maurice plus globalement sur le comment et le pourquoi de son œuvre. Comment, quand on est étudiant en droit, on finit à l'IDEC et on finit par faire des films, pour quelles raisons de son œuvre, parce que son œuvre est conséquente. Je pourrais. Alors, ce qui est très marrant en plus avec les films de Maurice, c'est que moi, quand j'ai vu Le jardinier récalcitrant, je l'avais vu ce film. C'est-à-dire que c'est des films qui nous ont marqués. Et un certain nombre. Bon, la Belle Ouvrage, c'est aussi un film dont on se souvient. 1788. Enfin, bon, voilà, c'est une œuvre marquante. Et parfois, on n'a pas l'occasion de pouvoir rencontrer un réalisateur qui a beaucoup travaillé pour l'audiovisuel public à l'époque. Et donc, ça serait intéressant d'avoir aussi cette. Pourquoi quoi, parce que c'est aussi un engagement à un moment donné. Donc, si vous voulez, première partie, on passe sur les questions que vous avez envie de poser à Maurice. Sur les films qui ont. Voilà. Alors, il y a un micro-paladeur, là.
Oula. C'est sur Le gouverneur de la Rosée que j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que. Je ne sais pas sans doute que c'était voulu. Par rapport aux acteurs non professionnels, qui paraissait figé, mais finalement très digne et très, très, j'ai ressenti, très, très réel. La question que je voudrais poser concerne ce que tu as dit au début, que tu ne pourrais pas réaliser un tel film aujourd'hui.
Non, ce que j'ai dit, c'est que la télévision ne... Voilà. Moi, je pourrais le faire, hein, parce que j'aurais toujours... Si c'était à refaire, j'aurais toujours envie de le refaire. Mais je pense que la télévision, dans ce qui est devenu, ne se lancerait pas dans cette aventure. Oui. Voilà. Hein, je pense que compte tenu du sujet, compte tenu que c'est... des Haïtiens, que c'est des voilà, que c'est entièrement joué par des amateurs, que il y a peut-être non pas une difficulté de langage, mais enfin voilà, donc je pense pas que la télévision se lance. Enfin, peut-être j'ai tort, hein, mais je pense pas que la télévision aujourd'hui se lancerait. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un film donc, qu'on a tourné entièrement en Haïti. En Haïti, il n'y avait aucune... pas de matériel. Il a fallu envoyer un car pour l'électricité sur place, par bateau. Enfin, c'était quand même... Et en même temps, on a essayé de rentrer dans un budget. À l'époque, je ne sais plus combien c'était, mais enfin, un budget tout à fait raisonnable qui correspondait au budget des films qui se faisaient à l'époque. Aujourd'hui, ça coûterait, je pense, beaucoup plus cher. Et donc, je ne pense pas que la télévision se lancerait dans cette aventure. Ce qui est regrettable, si vous voulez, c'est que Haïti a été souvent à l'actualité et que la télévision ait oublié qu'elle avait ce film dans ses archives, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu rediffusion. Elle pourrait le rediffuser. Le film lui appartient à France 2, donc elle pourrait très bien le rediffuser, mais bon, voilà.
Une question par rapport à ça, là. Sur l'idée, voilà, il y a à la fois la télévision ne mettrait pas les moyens aujourd'hui pour un film de cette nature, mais la question que je me posais aussi, c'est que ce film, il est fait en 1975.
Oui.
75. Il est diffusé en 75 à la télé.
Ouais, il a des prix.
Il est diffusé à une heure de grande écoute.
Ah oui.
Donc ça veut dire que vous avez vu le film comme moi hier, c'est un film de 104 minutes. Les comédiens, enfin les acteurs, même si ce n'est pas des acteurs, enfin ils parlent en créole. Donc c'est une œuvre où il faut rentrer dedans. Et c'est des œuvres qu'on voit en début de soirée à la télévision.
À l'époque.
Donc ça veut dire là aussi qu'on proposait à voir, entendre, à découvrir des œuvres qui quand même amenaient à réfléchir, à gamberger. Donc ça, il y a à la fois les moyens, mais il y a aussi à la fois des volontés sans doute politiques, économiques, qui font qu'aujourd'hui, on ne voit plus des œuvres de ce type-là à des heures de grande écoute sur la télévision publique y compris.
En même temps, parce que c'est quand même très, très spécial. Hein, Gouverneur, encore une fois, c'est le fait que ce soit ce film, un film tourné en Haïti. Je mettrai un bémol à ce que dit Alain quand même, c'est que par exemple, ce film que j'ai fait il y a 4 ans, qui s'appelle Jusqu'au bout, qui était quand même un film sur l'histoire d'une grève dure, qui inspirée de ce qui s'est passé à Célatex, il est passé à 1h, il est passé à 20h30 sur France 3, il est repassé sur Arte, je signale, mais enfin, je pense que vous aurez autre chose à faire que d'aller le voir, qui repasse demain sur France 3 à 16h20, 16h10. Voilà, donc le service public, il y a encore des choses qui se font, heureusement.
Oui, moi, c'est à propos du jardinier récalcitrant. J'ai trouvé cette œuvre particulièrement visionnaire. Et quelles sont... La fiction maintenant rejoint la réalité. Pour moi, ce film... on pourrait le refaire en changeant peu de choses. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous a amené à ces intuitions folles?
Alors, deux choses. Hein. Donc, c'est un film qui date de 1981. Hein, donc, on a écrit avec Jean-Claude Carrière en 80. Alors, deux choses hein, qui ont été comme point de départ, c'est un, je venais de faire un voyage aux États-Unis où j'avais présenté un film 1788 dans toute une série d'universités, mais qui m'ont fait balader, qui m'ont vraiment fait faire le tour des États-Unis, y compris en Alaska. Et ce qui m'a frappé à l'époque, moi qui connaissais les coins, quand on vient en France, on va dans un coin, il y a une cuisine. Bon, aux États-Unis, où que j'aille, c'était tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait un formatage au niveau alimentation, enfin, etc. Voilà, ça c'était une première chose. La seconde chose, c'était que à l'époque commençait à s'instaurer à la télévision une... On sentait qu'il y avait un début de formatage, qu'il y avait au niveau intellectuel, voilà, entre, il y avait, on parlait à l'époque, il y avait les saltimbanques et puis, je ne sais plus quel était le terme pour les, ceux qui tenaient le cordon de la bourse. Hein, il y avait un peu ce débat-là, voilà. Et donc, à partir de là, j'ai inventé cette, enfin, on a inventé cette histoire du jardinier récalcitrant, qui effectivement est d'actualité aujourd'hui. Et là aussi, je regrette que ce film, qui est beaucoup plus actuel aujourd'hui que quand il est passé à l'époque, voilà, que la télévision ne s'en sert pas. Mais alors, là, c'est un autre problème, c'est que c'est vraiment une parenthèse anecdotique, mais le jardinier, quand l'ORTF a cessé, quand elle a été partagée, qui a eu la nouvelle loi en 86, donc tous les films qui étaient faits avant une certaine époque ont été donnés, enfin ont été mis en possession de, en propriété de l'INA, c'est-à-dire l'Institut National de l'Audiovisuel, et tous les films qui, c'est moi qui, et tous les films qui ont été, je crois après 80, ont été redistribués selon les chaînes qui les avaient produits avant la privatisation de TF1. Et TF1, voilà, parce que le film a été diffusé à un an près, c'est TF1 qui a eu le film, et donc il est dans les tiroirs, ils ne ressortiront jamais. Là, vous avez la possibilité de le voir, c'est parce que j'ai un DVD. Ce DVD, on a pu l'avoir parce qu'il y a il y a 4 ans, 4-5 ans, une responsable, c'était la vice-présidente de Languedoc-Roussillon, de la région, du Parti des Verts, qui faisait un truc d'été pour les Verts dans l'Aude, qui m'a dit, moi, je voudrais le passer. Je lui ai dit, bah, vous débrouillez avec TF1. Et comme c'est une battante, elle s'est bagarrée, elle a fini par avoir... Et donc j'ai pu avoir un DVD, pas de très bonne qualité, mais qui est le mien, et donc que j'ai apporté là. Voilà. Ça va, j'ai répondu à...
Merci. Non, mais par rapport à ce que vous venez de dire, on élimine TF1 de la liste... Voilà, tout simplement. Parce que la donne a changé globalement depuis un certain temps. Est-ce que vous pensez que non seulement votre film, mais peut-être d'autres films que vous pourriez faire, ou que des collaborateurs à vous pourraient faire, pourraient passer sur d'autres chaînes, voire France 2, France 3, France 4, France 5 voir sur la TNT pour montrer des choses qu'on ne peut pas voir sur TF1, parce que sur TF1 on ne peut plus strictement rien voir, quoi, globalement. Voilà.
Moi je crois que sur le service public tel qu'il existe encore, hein, alors pour combien de temps j'en sais rien, mais tel qu'il existe, il y a encore la possibilité de faire des œuvres, enfin de passer, de diffuser des films ou de faire des films qui sortent un peu de l'ordinaire. Non, même au niveau, même au niveau fric. Par exemple, je sais que j'ai présenté jusqu'au bout, hein, ce film sur la grève il y a un an ou deux ans au Canada. Et les Canadiens étaient étonnés que la télévision puisse passer un film comme ça. Et aux États-Unis, vous pouvez parler de tous les problèmes. Vous pouvez parler de l'homosexualité, de tous les problèmes. Le seul problème que vous ne pouvez pas aborder, c'est le problème du salariat. Voilà. Ça, c'est exclu. On n'en parle pas parce que tout de suite, tous les autres problèmes sont possibles. Hein. Je crois que en France, on peut encore un petit peu traiter des problèmes des salariés, des problèmes de la classe ouvrière, etc. L'Angleterre. Ah oui. Ouais.
Bah, je voulais revenir un tout petit peu en arrière, justement. Est-ce qu'il y a un moyen ou un autre de faire visionner vos films en dehors du bon vouloir TF1, des chaînes, etc. Est-ce qu'il y a la possibilité, ou est-ce que c'est souhaitable ou pas, d'avoir des circuits de diffusion qui soient comme ici peut-être, mais dans d'autres lieux, etc. Et qu'un certain nombre de films sortent un petit peu de l'oubli ou des placards dans lesquels ils sont mis.
Ça serait souhaitable, hein, parce que je ne parle pas seulement de mes films, hein, mais c'est vrai que la télévision a des trésors dans ses archives. Alors, il y en a quelques-uns qui sont diffusés par l'INA, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui restent dans les tiroirs. Alors, je ne sais pas trop... Je veux dire, quand on me demande personnellement... Mais c'est vraiment au niveau personnel. Alors j'adresse, je connais quelqu'un à l'INA à qui on peut demander. Mais en même temps, l'INA est devenue un je veux dire, ils ont besoin dans la situation où ils ont besoin d'argent. Donc ils sont assez gourmands. Ils accepteraient, mais il faut mettre le prix. Hein. L'année dernière, par exemple, on m'avait demandé de présenter plusieurs de mes films à un festival en Corse. Je leur ai dit, vous demandez à l'INA. Ils sont demandés à l'INA. Le gars m'a rappelé en disant, non, c'est trop cher pour nous. J'ai rappelé la copine qui m'a dit, alors on coupe en deux. J'ai rappelé le gars, il m'a dit, ah non, c'est encore trop cher. Et j'ai fini par dire à la fille, écoute, j'ai des DVD, je les prends avec moi. Tu étais au courant de rien, et puis je présente les... Voilà. Mais c'est, pour l'instant, c'est un peu de ce genre, hélas. Mais sinon, si quelqu'un a de l'argent à mettre, hein, sans que ce soit... Il peut demander tous les films. 1788, je sais que c'est diffusé. Il y a un certain nombre de films qui sont sur en ligne, je crois, à travers le c'est quoi ? C'est l'Inatec, hein, qui est le... qui est lié avec la Grande Bibliothèque de France. Voilà, mais c'est, malheureusement, moi j'aimerais bien, hein, que... Voilà.
Qui a les droits de 788 ?
La plupart sont l'INA. Personne. L'INA jusqu'en... tous les films que j'ai faits jusqu'en 80. Ensuite, c'est les chaînes qui les ont produites. Alors, France 2, ils sont plus... Enfin, ils acceptent, hein, France 2, France 3 acceptent. TF1, je crois que c'est un problème, hein, bien qu'ils aient, ils ont fini par accepter de faire un DVD. Et puis les derniers films, par exemple, Jusqu'au bout, là il y a un producteur privé, hein, qui est Jean Bigot, que vous avez. Et là il y a eu des cassettes et on peut se procurer, on peut acheter les. C'est une diffusion par cassette comme n'importe quel film, hein, comme les par DVD, hein, comme les films de Marcel, là que je voilà, hein, ça c'est le circuit normal. Mais c'est seulement en ce qui concerne mes films, c'est seulement à partir de celui-là. Les autres, c'est les chaînes. Ah, les droits, il pourrait. Ah bah si. S'il y a un volontaire qui discute avec l'INA et qui dit « moi, ça m'intéresse ». Par exemple, pour Gouverneur de la Rosée, l'année dernière, c'était le centenaire de la mort de Jacques Roumain. Donc, je savais que dans le monde entier, enfin, là où il y a une communauté haïtienne importante, les États-Unis, Canada, France, hein, ou Belgique, ça les intéressait. Donc, j'ai appelé l'INA. Qui a accepté de. Parce que la copie au niveau sonore était assez dégradée. Donc, ils ont accepté de refaire le son, de retirer l'image, et ils ont fait des DVD donc, qui sont disponibles à l'INA. Mais disponibles moyennant finance. Hein. Ah, 1788, c'est peut-être le plus facile parce que ça, c'est un film qui a été non seulement beaucoup piraté par les enseignants et tout ça, ils ont raison, bon moi ça m'est égal, mais en plus l'INA, ça fait partie de la collection des DVD que diffuse l'INA. Hein, donc vous pouvez l'avoir à l'INA. Seule crainte un peu, c'est que le DVD que j'ai vu, moi, que j'ai demandé, c'est pas d'une qualité très grande. Mais le film, voilà, il va falloir que j'intervienne aussi pour qu'il refasse un tirage meilleur. En tout cas, on m'avait dit à un moment donné que parmi tous les films que diffusait l'INA en DVD, 1788 était un des plus diffusés.
Alors peut-être on continue au fur et à mesure de la discussion, il y a des questions qui vont se poser. Moi je reviens aussi à la seconde partie, c'est-à-dire bon, Maurice Felwick, il fait des études de droit et il se retrouve à l'IDEC. Pourquoi faire ? Il y a déjà la volonté d'aller vers une création audiovisuelle avec un contenu. Il y a une volonté, un parti pris. Une démarche volontaire sur ces questions-là ?
Non, alors, attends, excuse-moi Alain, mais je ne vais pas rentrer, parce que c'est très compliqué. Hein, pourquoi on... Voilà, bon, j'ai commencé par faire du droit, parce qu'à l'époque, l'IDEC était fermée. Alors, l'IDEC était fermée parce qu'à l'époque, elle était encore dirigée par l'équipe mise en place à la Libération, c'est-à-dire surtout des cocos. Donc en 51-52, le gouvernement a décidé de fermer l'IDEC pour pouvoir nommer. Pour pouvoir nommer une nouvelle direction. Et donc l'IDEC a été fermée pendant 2 ans au moment où je venais de passer le bac. Donc j'ai attendu, j'ai cru que... Voilà. Et quand l'IDEC a recommencé, je me suis présenté au concours de l'IDEC. Alors, c'est vrai que c'est une sorte de voie royale, études lycée, l'IDEC, hein, l'École nationale du cinéma en France. Et puis, c'est après. Alors après, au retour du service militaire, je passe. Je suis rentré à la télévision parce que j'avais pas de piston ou de connaissances dans le cinéma. Et puis c'est vrai que les copains que j'avais moi à la télé, qui étaient rentrés à la télé, me disaient tous. Viens à la télé, c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable. Et alors, c'est vrai, alors c'est là-dessus que je voudrais commencer, c'est que quand je suis entré à la télé, quand j'ai commencé à la télé, c'est vrai que c'était un instrument extraordinaire. C'était le début de la pleine expansion de la télé, c'était gouvernement de droite, hein, mais... À cette époque, en dehors de l'information qui était la voix de la France, hein, c'était De Gaulle, etc., tous les autres secteurs, les documentaires, les fictions, etc., y avait une sorte de service public. Alors, je me souviens pas de choses de censure très fortes, hein, à l'époque. Et nous, quand on a commencé à la télé, c'était l'époque c'était la pleine époque de Jean Villard, etc., etc. Et pour nous, la télé représentait, cet extraordinaire instrument qui permettait de toucher tout un peuple qui n'allait pas au cinéma, qui n'allait pas au théâtre, qui ne lisait pas, etc., etc. Et c'était pour nous, beaucoup des réalisateurs, et je dois dire que la plupart des réalisateurs à l'époque, à la télé, c'était des gens au moins de gauche. Hein. On travaillait un peu dans ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'on mettait à notre disposition un formidable outil de communication et on avait une sorte de responsabilité citoyenne vis-à-vis de ce public ou de ces publics. Voilà, donc c'était passionnant. Moi qui étais... Je dis toujours, je suis né à Paris. J'ai eu la chance d'aller au lycée, mais je connaissais peu mon pays. Et la télé m'a permis de connaître, à travers les documentaires, etc., une diversité de gens, de milieux. C'était formidable comme formation et comme enrichissement. Et encore une fois, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait une école du documentaire extraordinaire à la télévision. Hein, voilà, alors donc, j'ai eu cette chance de commencer à la télé à cette époque-là. Et je dois dire qu'aujourd'hui, un jeune qui rentre à la télé, c'est beaucoup moins facile, beaucoup moins évident. Hein. Alors, bon... Si je veux aller vite dans le parcours, j'ai fait donc beaucoup j'ai commencé par faire beaucoup de par être assistant. Hein. Bon, ça c'est la voie normale. Et puis réalisateur très vite, beaucoup de documentaires et des reportages, hein, des documentaires. On avait les moyens. Je me souviens le premier documentaire que j'ai fait pour les femmes aussi, j'avais choisi comme thème une femme médecin de campagne. Donc il fallait faire un repérage d'abord. Et la productrice qui était Eliane Victor m'a dit, tu pars, tu loues une voiture et tu pars à travers la France. Et donc j'ai fait peut-être pendant 15 jours, 3 semaines, allant d'un département, d'une région à l'autre, en faisant vraiment le tour de France. Et puis je suis revenu, j'ai dit, écoute, j'en ai vu pas mal, mais j'ai pas de coup de... Enfin bon, ça, j'ai pas trouvé celle qui... Et il y avait deux que j'avais pas pu voir, qui étaient dans la Loire, hein, en Loire-Atlantique, parce qu'elles n'étaient pas là. Elle m'a dit, t'y retournes, va voir. Et coup de foudre, là, je suis tombé sur mon père. Mais c'était des... Vous voyez, c'était les conditions. Donc j'ai passé 3 semaines à chercher... Ensuite, on a eu 3 semaines ou un mois de préparation. Ensuite, on avait des moyens pour faire les choses. Et puis, alors bon, alors il y a eu 68, il y a eu une nouvelle direction à la télé. Et la télé était quand même très un peu compartimentée à l'époque. C'est-à-dire, il y avait les documentaires et puis alors il y avait l'élite. Enfin, la grande télé, c'était les dramatiques... le truc ce qu'on appelait les buts de Chaumont, alors avec les grands noms, hein, c'était des gens formidables. Il y avait Lorenzi, il y avait Bluval, il y avait Barma, il y avait Pratt, etc., Lourset, etc. Et alors, quand on était assistant, on attendait, parce qu'à l'époque, il y avait, pour passer réalisateur, il y avait une commission où les réalisateurs, c'était paritaire, mais enfin, les réalisateurs avaient la part belle. Hein. Et à l'époque, ce qui faisait la force, donc beaucoup de réalisateurs, il y avait un syndicat de réalisateurs, syndicat très, très marqué, hein, très de gauche. Et sa force, c'est qu'il y avait autant de réalisateurs que d'émissions à faire. C'est-à-dire quand les réalisateurs s'arrêtaient, la télé s'arrêtait. Hein. Et puis, à un moment donné, alors je saute dans la généralité, à un moment donné, c'était après 68, la direction de la télé je ne sais plus comment ils s'y sont pris, mais enfin, Si, parce qu'ils accusaient les réalisateurs de corporatisme, de défendre leur fromage, etc., etc. Et donc, ils ont réussi à multiplier le nombre de réalisateurs par 3, hein, à faire entrer, à tripler le nombre de réalisateurs qui avaient leur carte, qui avaient le droit de réaliser à la télé. Et à partir de là, ça a été un peu la fin, parce que quand un réalisateur disait non, ce que vous me proposez, ça ne me va pas, il y en avait 2 ou 3 à la porte qui attendaient, etc., etc. Hein, ça a été le début de la fin de la force des réalisateurs. Voilà, là, je ferme la parenthèse. Donc, après 68, il y a eu un nouveau directeur, c'était sur la deuxième chaîne, qui a dit, bah, écoutez, il y a toujours ces grandes fictions, hein, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des trucs qui coûtent pas cher, qui soient d'actualité, enfin qui traitent de l'actualité, etc. Voilà. Hein, et donc il a fait appel à toute une vague de réalisateurs, de jeunes réalisateurs formés par le documentaire. Et donc voilà, il nous a dit proposez-moi des sujets. Et bon, à l'époque, je lui ai proposé, que c'était après 68, l'histoire d'un ouvrier hautement qualifié, c'était d'un bel ouvrage, qui un jour voit arriver une machine numérique qui va prendre sa place. Et d'un seul coup, il se sent devenu inutile, il était délégué syndical, etc., etc. Il pète les plombs, bon, bref, l'histoire. Et ça a été accepté tout de suite. J'ai tourné le film en 70. Le film a été diffusé, a été reporté parce que je crois que De Gaulle est mort le jour où il devait être diffusé. Donc ça a été un peu reporté. Le film est sorti à la télé. Ça fait un... Mais on ne s'y attendait pas, mais c'était, je crois, une des premières fois où on traitait des problèmes de la classe ouvrière. Donc ça fait... Et puis voilà, et après c'est parti. Moi, j'ai travaillé, bien qu'étant marqué politiquement, bien qu'en sachant, je faisais à peu près un film que j'écrivais ou que je co-écrivais et que je tournais par an. Et donc ça a été sans qu'on m'embête. Hein. Je raconte toujours l'histoire d'un. C'était en 75-76. C'était la création de France 3. Et le nouveau directeur de la fiction m'appelle et me dit oh ben on aimerait bien que vous travailliez pour nous, que vous nous fassiez une proposition de fiction. Moi, j'avais un autre projet pour la deuxième chaîne. Je dis bon, je ne vais pas leur dire non, que je ne peux pas. Hein, parce... Ah oui, alors il faut vous dire que quand on passait réalisateur, tant qu'on était assistant, on était salarié de l'ORTF. Quand on passait réalisateur, on devenait intermittent. C'est-à-dire, on était payé que quand on travaillait. Hein. Il n'y avait pas de garantie de bon, etc. Donc, je me suis dit, je ne vais pas lui dire non parce que c'est un client éventuel, etc. Donc, je lui dis, moi, il y a un sujet. Alors, il m'avait fait tout un baratin en disant, ça nous intéresse, quelqu'un comme vous. Politiquement, etc. Bon, ça m'intéresse, moi, que vous travaillez pour nous. Je lui dis, bah, écoutez, moi, je ne le connaissais pas, le gars. Je lui dis, moi, il y a un sujet qui m'intéresse, moi, c'est. Ça serait raconter l'histoire d'un prêtre ouvrier. Alors là, je sens qu'il. Hein, il me dit, ah oui, il est intéressant, mais il faut que je réfléchisse, il faut qu'on discute, et je comprends qu'il va en parler. Au patron de la chaîne, de la troisième chaîne, qui était un gars qui s'appelait Monsieur Contamine, qui était connu pour être un conservateur, pour ne pas dire plus, un réactionnaire fini, hein, mais un monsieur du service public, hein, qui est quand même. Et je pars tranquille tourner mon autre film en me disant bon, bah, la balle est dans leur camp, on verra bien. 15 jours après, j'étais donc en préparation sur le tournage en province. 15 jours après, le gars m'appelle en disant « c'est OK ». Donc j'ai fait ce film sur le prêtre ouvrier, hein, qui était un film aussi qui se passait dans une usine, enfin bon, etc. Le sans aucun problème, je sais que quand le film a été terminé, bien sûr, le directeur de la chaîne l'a vu, qu'il a détesté, mais n'empêche que le film est passé quand il a fallu, à 8h30, etc., etc. Voilà, parce qu'il y avait encore une, il me semble, alors on peut dire c'est la Libye, c'est le machin, etc., mais il me semble qu'à l'époque, même parmi les responsables de la télévision qui étaient des gens de droite, il y avait un sens du service public. C'était la télévision française, voilà, dans sa diversité. Voilà, et après, bon, donc pour aller vite, j'ai fait donc 23 films de fiction et à peu près autant de documentaires.
Oui, bonjour monsieur. Lorsque, bon, j'ai écouté avec... Qui m'a intéressé beaucoup pendant la campagne électorale, c'est le fait que notre amie Ségolène, bien qu'elle ait été parfois un petit peu partie dans tous les sens, hein, et est évoqué une chose extrêmement intéressante, c'était le fait mais ce qui ne vous concerne pas peut-être directement, je ne sais pas, et qu'elle ait dit que tout ce qui était affecté aux différents ministères pouvait être réaffecté de manière assez facilement vers d'autres ministères sans que ça respecte un plan quinquennal ou quoi que ce soit. Et est-ce que vous êtes capable de répondre à ce genre de questions?
Pas du tout. Ça ne me concerne pas du tout.
Ouais, moi, je pensais à un truc en t'écoutant. Bon, à l'époque, donc, 23 fictions, il y avait des outils qui existaient, un service public avec des gens qui avaient envie qui avaient un sens du service public, et puis il y avait des outils comme la SFP, par exemple. Et la SFP, c'était quand même un outil considérable pour la fiction. Comment ça s'est passé, comment ça s'est vécu? Parce que je crois qu'il y avait 3000 salariés à la SFP à une période, ils sont tombés à 300 ou 200, enfin c'est même pas. Enfin c'est, racheté par Bolloré. Bon. Donc ça veut dire que là, il y a une privatisation d'un outil et qui se répercute à un moment donné, y compris dans la capacité qu'on va avoir ou pas dans le service public de produire des fictions. Question, comment tu l'as vécu ça? Est-ce que tu l'as ressenti dans ton travail?
Oui, je l'ai ressenti dans mon travail, mais surtout, à partir d'une époque, il a été décidé, alors ça c'est très précisément parce que ça j'en étais témoin direct, alors il faut dire, par exemple en 81, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, la première mesure qu'a prise Mitterrand, ça a été de nommer une commission, la commission Moineau, sur la télé, hein, pour réfléchir sur l'avenir de la télé. Bon, j'ai eu la chance, hein, parce que c'était vraiment de faire partie de cette commission. Et je dois vous dire que pendant deux mois et demi, ça a été un rêve, parce qu'on a rêvé une télévision idéale. On a rêvé de ce que pourrait être la télévision dans un pays comme la France, etc., etc. On a fait un gros rapport, hein, on l'a remis, on a été invité à dîner par Mauroy, enfin bon, tout ça. Et puis, le rapport est resté enfermé. Pendant ce temps-là, il y avait des gens, comment il s'appelait le copain de Mitterrand, tu sais, qui avait une compagnie de taxi, qui a fondé Canal+. Bon, bref, Lescure. Non, c'est pas l'Escure. Non, c'est pas l'Escure. Hein? Rousselet, voilà. Rousselet qui était un grand ami, lui, tout ce qu'on a pu rêver a été enterré, a été mis en place, tout autre chose. Alors la seule chose qui soit restée, ça a été la haute autorité qui est devenue le SCA maintenant. Hein, voilà. Mais c'est la seule chose qu'ils aient gardée de nos rêves, hein, parce que ça a été un rêve. Alors ensuite, ça a été assez vite. Hein, c'est vraiment à partir des années 82-83 que ça commençait à se dégrader. Parce que moi, je me souviens de Jacques Lang nous disant il faut pour concurrencer les grandes sociétés étrangères, il faut créer en France des sociétés privées qui puissent être au même niveau que ces sociétés étrangères. Et donc, à partir de là, il y a eu, je ne sais plus quel décret, hein, ou c'est Lang directement, mais qui a mis en place un système de fonds de soutien qui n'était attribué qu'aux sociétés privées. Et à partir de là, la SFP a commencé à être en concurrence avec les sociétés privées, puis ça s'est dégradé très vite, hein. Dès qu'on a pu, on savait que la SFP était menacée. C'est vrai que là, il y a eu une succession de scandales parce que aussi bien la SFP que les buts de Chaumont, qui était un instrument aussi formidable, tout ça a été payé par vous. Hein. Tout, la SFP, toutes les chaînes, tout le réseau, tout ça, c'est, l'État n'a pas mis un sou. Hein. Ça a été uniquement payé avec les redevances, hein, avec la redevance des gens. Hein. Et tout ça a été bradé. Par exemple, les buts de Chaumont, qui était un ensemble de studios à Paris vachement important, a été racheté par Bouygues, hein, qui a tout rasé et qui en a fait un truc de logement. La SFP, qui était un superbe outil de travail dans les environs de Paris, même chose. Peu à peu, ils ont licencié, ils n'ont pas repris les gens. Il y avait des équipes formidables. Je veux dire, la télévision s'était construite en même temps avec des équipes d'une qualité remarquable. Hein, et avec aussi, moi je me souviens avoir travaillé avec des ingénieurs du son qui étaient entrés à la télévision, mais ça je trouve que c'est formidable, qui étaient entrés à la télévision, je ne sais plus à quel... très petit, et la télévision formait les techniciens, mais avec des moyens. Hein, un monteur, j'ai un ami qui est monteur, pendant 2 ans il a été formé. Je crois qu'il est entré comme électricien, je ne sais pas quoi. Voilà, c'était un outil national, public... qui a joué son rôle pendant un certain temps et qui a été bradé très vite.
La question que j'aimerais poser, c'est un peu d'actualité, je pense, mais voilà, il semblerait, c'est même à peu près certain, que les projets gouvernementaux actuellement qui nous ont été, on nous a informé de ça en tout cas, feraient maintenant que les chaînes publiques, les directeurs de chaînes publiques seraient nommés directement par le gouvernement, d'une part, et d'autre part, la question de la redevance. Alors, c'est des questions, moi j'ai pas de réponse, c'est pour ça que d'ailleurs je la pose. C'est-à-dire que comment va pouvoir fonctionner le service public étant donné qu'on leur ôte la manne de la publicité. Je ne suis pas forcément un fan de la publicité, mais je ne comprends pas comment ça va fonctionner à partir du moment où, d'une part, il semblerait qu'il y ait même un contrôle du pouvoir en place assez maintenant serré, d'une part, et d'autre part, on risque de voir les chaînes publiques réduites d'ailleurs d'une part, et d'autre part, avec moins de moyens, donc. Moins de moyens veut dire moins de moyens pour les réalisateurs, moins de moyens pour les professionnels qui, qui travaille. Et voilà. Alors je sais, là, il faudrait quand même, il y a peut-être des, même des revendications qui devraient faire jour par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on est, on a toujours un peu le cul entre deux chaises dans cette affaire-là. Et c'est assez difficile, voilà.
Alors je, je pense que vos questions sont. Mais ce soir à 19h, il y a un débat sur cette question. Hein, et avec des gens qui vous répondront sûrement mieux que moi. Hein. Moi si j'ai bien compris ce qu'Alain attendait de moi, c'était plus un peu l'histoire. Hein, où, voilà. Donc ce soir, on vous répondra et il y en a de plus qualifiés que moi. Voilà. Non, moi, ce que je pourrais dire, par contre, c'est que j'ai toujours regretté, on a essayé, hein, c'est pas qu'on n'ait pas essayé, mais j'ai toujours regretté que le public de la télévision n'intervienne pas davantage à la télévision. C'est sa télévision. La télévision est un outil, en même temps, une arme terrible. Hein, on s'en aperçoit pas parce que c'est soft, mais la télévision, je trouve, fait un mal terrible en même temps. Et je suis frappé par le fait qu'il n'y ait pas de réaction ou de défense. Alors, même, moi, j'ai été, quelquefois, j'ai même. Parce qu'à un moment donné, par exemple, on a raté le coche, je trouve, en France. Alors, je sais qu'il doit y avoir pas mal d'enseignants parmi ceux qui sont là. Mais c'est vrai que j'en ai un peu voulu aussi aux enseignants qui aimaient bien ce que je faisais. Hein, donc, mais qui en même temps, ont souvent considéré, en tout cas à l'époque, la télévision comme un concurrent. Hein, au lieu de se rendre compte que ça pouvait être un appui, un allié, etc. C'était un concurrent et que voilà, on s'en occupe pas. Il n'y a pas eu vraiment de défense, mais c'est très dur hein, parce que je connais pas de pays où ça a eu lieu. Peut-être aux États-Unis où les gens ont réagi parce que la télévision était devenue tellement commerciale, insupportable, bourrée de pubs, hein, ce qui nous arrive maintenant, qu'il y a des gens qui ont décidé de payer, alors c'est le problème de la redevance, pour avoir une chaîne, un PBS, une chaîne publique, où ils ne payent, qu'ils payent, hein, c'est avec un paiement volontaire, pour avoir une chaîne où ils passent des bonnes émissions sans publicité, etc. etc. Mais voilà, il y a eu cette réaction, je ne sais pas s'il va y avoir la même réaction en France, mais ça, je regrette hein, qu'on ait toujours que quand il y a eu des problèmes à la télévision, parce que il y en a eu des grèves, hein, il y en a eu, on ait toujours considéré ça comme ça intéresse, c'est le problème des réalisateurs, c'est le problème des gens qui sont à la télé, alors que c'était le problème de l'ensemble du pays. Voilà, je dis ça comme ça. Hein.
Je suis vraiment très contente, moi, ancienne enseignante d'histoire, d'entendre une interpellation d'histoire sur justement le rôle qu'on aura pu jouer pour la diffusion de créations vraiment intelligente, bien construite, et je dois dire que le film 1788 de Maurice Pelvic, je l'ai diffusé bien des fois, mais il y a très longtemps, il y a 20 ans, et j'ai essayé dans le cadre de mon lycée de faire un club de diffusion d'émissions qui pouvait faire avancer les choses en ce qui concerne la compréhension, la critique du monde dans lequel nous vivions. Et je me suis rendu compte que après quelques années que j'étais un peu seule. Et donc, je voudrais dire que là, le travail que j'ai pu faire avec mes élèves m'a quand même laissé un très très bon souvenir. et que vraiment c'était remarquable de pouvoir travailler sur un film comme 1788 qui ouvrait des possibilités de discussion extrêmement intéressantes. Et je voudrais remercier Maurice Felvic que je vois aujourd'hui pour la première fois, alors qu'il y a 20 ans, je diffusais ces films dans mon établissement.
Merci. Alors, à ce propos, hein, juste pour généraliser un peu, je trouve que là aussi, il y a une incompétence aussi bien du ministère de l'Éducation nationale que... Parce qu'encore une fois, il y a des richesses formidables sur le plan qui peuvent aider les enseignants hein, à tous les niveaux de l'enseignement. À l'INA, mais c'est vrai qu'il faudrait que l'Éducation nationale, bon, qui dit qu'il a, s'arrange en tout cas entre l'INA et l'Éducation nationale, qu'il y ait un arrangement pour utiliser toutes ces richesses. Et c'est vraiment... C'est terrible parce qu'encore une fois, tous ces films qui ont été faits, c'est vous qui les avez payés à travers la redevance.
On prend deux dernières interventions, on arrêtera parce qu'il y a un concert qui va commencer dans l'église. Il y a Annie et puis il y a le monsieur.
Oui, la question que tu posais là, c'est lié à la critique. Effectivement, on vient d'entendre ce qui peut se passer dans les écoles avec des individualités qui travaillent sur des émissions, sur des films. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de club des TV-files. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une critique de la télé en dehors d'une critique négative qu'on sait tous faire et qu'on fait, on s'en prive pas. Mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans cette perspective de se dire qu'est-ce qui est bien, c'est l'éducation du public en fait. On se fait une éducation du public. Le cinéma a travaillé ça par les ciné-clubs. Dans des lieux comme Uzest, on travaille des critiques sur la musique, on travaille des critiques. Bon, il y en a d'autres sur le théâtre, mais la télé, voilà. Alors comment on peut lancer ça? Il n'y a pas de recette. Hein. Je sais qu'à une période...
Il y a eu des tentatives.
Oui, il y a eu des tentatives, mais ça me rappelle un truc, par exemple, ça me fait penser à un grand débat qu'on avait avec Sicre à un moment donné sur les supermarchés. Alors, on critiquait toujours les supermarchés, puis lui nous disait, ouais, mais c'est dans les supermarchés qu'on découvre le Mexique, qu'on découvre l'Inde, qu'on découvre l'Asie, etc. Bon, voyez ce que vous pouvez y trouver. Alors ici, on a eu ce genre de débat, mais en fait, on ne s'est pas arrêté autour de la télé, ce qui était positif. Et en fait, je crois que c'est toujours le rapport au film. Est-ce que quand ça passe à la télé, c'est un film ou c'est pas un film? Est-ce que ça prend ses lettres de noblesse? Ça aussi, c'est une question de critique ambiante aussi, je crois.
Je vous réponds. Alors, je vais pas vous répondre sur le début parce que ça, ce soir, on en discute, hein, je crois. Film ou pas film, moi je peux vous dire que quand je travaille à la télé, quand je travaille comme pour un film. Hein, je fais un film. Voilà.
Autre question ? Oui, moi ma question elle porte plutôt sur le.
On t'entend pas là. Non, c'est pas.
Non. Mieux, je crois. Ah si, ça y est. Voilà. Oui.
Il faut parler dans...
Alors... Le micro est un intermittent du spectacle, sans doute. Oui, moi, j'ai souvent regretté que donc dans l'Éducation nationale, on ne met pas au programme l'étude de l'image. Ça me paraît être justement un domaine extrêmement important. Les élèves, d'une façon générale, ils sont confrontés quotidiennement. Et donc, bon, c'est vrai que les organisations syndicales n'ont pas peut-être suffisamment peut-être travaillé aussi dans cette direction-là. Et je voudrais savoir si, du côté des professionnels de l'image, en quelque sorte, eh bien, il y a eu des tentatives pour peut-être faire pression et mettre en place peut-être un travail dans cette direction. C'est un peu une provocation, peut-être.
Oui, non, c'est pas une provocation. C'est un problème très important, hein. Parce qu'apprendre à décrypter les images avec tout ce qu'on nous envoie aujourd'hui, c'est un chiffre, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est exact. Aujourd'hui, un individu va passer 14 ans de sa vie devant la télé. 14. Il est parti, Marcel, parce que on est là. Bon. Ouais. Donc c'est vrai c'est devenu une chose très importante. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des tentatives. Je crois que c'est un peu à l'ordre du jour. Hein. Il y a eu. Mais par exemple, moi, j'ai un copain qui a été chargé à un moment donné de former des enseignants qui étaient eux-mêmes chargés d'enseigner le cinéma, par exemple, dans les lycées, vous savez, dans les classes A. Et il était très étonné par le boulot qu'il avait à faire. Hein. Voilà, alors je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas, ça me semble quelque chose de très important qui devrait être fait. Hein, décrypter les images, savoir comment à longueur de journée on nous trompe. Avec les images, alors peut-être c'est aussi une des raisons pour laquelle on n'a pas tellement intérêt à enseigner comment décrypter les images qu'on nous envoie.
On va arrêter là cette rencontre. Remercier Maurice.